Europe 1. On de Latte raconte. Christophe On de Latte.
Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle qui est un peu la honte du système judiciaire français et de la police judiciaire. L'affaire Jacques Maire. Un meurtre et deux disparitions qui datent des années 80 et qui se soldent dans les années 2000 par un non-lieu et deux acquittements. Qui nous oblige à dire ici que Jacques Maire, même s'il avait tout contre lui, est innocent. Et je dois dire que ça m'arrache un peu la bouche. Mais c'est comme ça. Je vous préviens, c'est une histoire à tiroir un peu complexe. Accrochez-vous. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1. Christophe On de Latte.
Cette histoire commence par une scène d'horreur. Le 31 janvier 1987, à Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, dans une décharge publique, on trouve une jambe. Une jambe appuyée contre une vieille cuisinière. Et un peu plus loin, un corps de femme mutilé, nu et décapité. Les mains tranchées, le visage, mon Dieu le visage, méconnaissable. Il manque le nez, les oreilles et les lèvres qui ont été arrachées. Mais qui a pu faire un truc pareil? Un fou? Ou alors c'est un crime rituel? Ou peut-être un règlement de compte? Les policiers, quand ils arrivent sur place, fouillent les alentours. Ils trouvent une bottine de cuir, une petite culotte et un collant. Et un peu plus loin, un grand couteau de cuisine avec une lame de 30 cm tachée de sang. Un couteau qui, à coup sûr, a servi à découper le corps. L'autopsie révèle que la femme n'a pas été violée, qu'elle a été tuée par balle du 22 Longrive. Une balle dans le cœur et l'autre dans le crâne. Qui est cette femme? Les policiers ratissent à nouveau la décharge et ils trouvent un manteau en cuir, taché de sang. Tiens, regarde. Dans la poche, il y a un carnet de chèques au nom de Nelly Aderer. Je crois qu'on tient l'identité de notre inconnue. 22 ans, dis donc. C'était une gamine. Et il ne se trompe pas. Le même jour, son concubin, Michel, se présente à la gendarmerie. Bonjour. Voilà, la mère de ma fille a disparu depuis 2 jours, depuis vendredi soir. 2 jours? Vous avez attendu 2 jours pour nous prévenir? Ben, je vais vous expliquer. Il explique que le vendredi, ils se sont disputés et qu'elle a claqué la porte. Et du coup, il n'a pas été surpris qu'elle ne revienne pas tout de suite. Pour vous dire, j'ai passé la journée chez ses parents aujourd'hui. Eux-mêmes m'ont dit, elle va revenir Nelly, t'inquiète pas. Vous voyez, même les parents se sont pas inquiétés. Ok. Les gendarmes préviennent les policiers qui, naturellement, vont chez eux, à Bertichon. Ils fouillent la maison. Tiens, tiens. Ils tombent sur des fusils et sur des chiffons tachés de sang. Ok, on met tout ça sous scellé et on envoie tout au labo. Dites-moi, monsieur, pourquoi est-ce qu'elle est partie, votre femme? Vous avez été violent avec elle? Oui. Ouais, je lui ai collé 2 gifles. Un aller-retour, quoi, comme on dit. Un aller-retour? Et peut-être plus. Michel est donc placé en garde à vue à la PJ de Nancy. L'audition dure la nuit entière. 5 inspecteurs se relaient pour tenter de le faire craquer. Tenez, monsieur. Regardez. Ce sont les photos du corps de votre femme. Regardez ce qu'on lui a fait. Alors racontez-nous ce qui se passe après la dispute. Ben, il se passe rien. J'ai fait à manger aux enfants. On s'est couché, puis voilà. Qui peut nous prouver, monsieur, que vous ne mentez pas, hein? Eh ben, à 3h du matin, tiens. J'ai reçu un appel de Fabien, le frère de Nelly. Vous pouvez vérifier, hein. J'ai décroché. C'est la preuve que j'étais à la maison. Et pourquoi est-ce que son frère vous appelle à 3h du matin? Ben, il venait de rentrer chez lui. Il a trouvé un petit mot de Nelly sur sa porte, qui disait « Appelle-moi, c'est urgent ». Il pensait qu'elle était à la maison. Il m'a appelé. intéressant. Ça veut dire que quand elle claque la porte de chez elle, Nelly va chez son frère à Dombasle-sur-Meurthe, à 50 km. Et ça veut dire aussi que son concubin Michel n'est probablement pour rien dans sa mort. Et donc à la fin de sa garde à vue, il est relâché. Et quelques jours plus tard, coup de fil du labo qui le blanchit définitivement.
Oui, le sang sur les chiffons, là. C'est pas du tout du sang humain, hein. Et donc pas celui de la victime, hein. C'est du sang d'animal.
Si ça n'est pas Michel, alors qui ? Les policiers cherchent à reconstituer l'emploi du temps de Nelly à partir de 19h, heure à laquelle elle claque la porte de chez elle. D'après Michel, son compagnon, elle part à pied. Bon ben, elle avait l'habitude de faire du stop, hein. C'est sans doute en stop donc qu'elle va chez son frère à Dombasle. Les voisins du frère, en tout cas, disent qu'ils l'entendent arriver à 20h. Oh ben, je l'ai entendu monter l'escalier. Elle a dû trouver porte close parce qu'après... Elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours dans l'escalier. Les voisins disent qu'elle quitte les lieux vers 22h. Et ensuite, on retrouve sa trace dans une brasserie qui se trouve à environ 300 mètres, le Bar de France. Une jeune femme brune ? Ah ben oui, je me souviens. Elle a commandé 2 cafés. Après, elle retourne chez son frère Fabien. Les voisins l'entendent à nouveau monter et descendre l'escalier. Et puis elle prévient une voisine qu'elle s'en va et elle laisse un mot sur la porte. Il est quelle heure quand elle part ?
Oh, je sais pas moi, minuit. Ouais, je dirais minuit.
Et à partir de là, on perd sa trace. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, elle fait une mauvaise rencontre. Avec un gars du coin. Pourquoi un gars du coin ? Parce qu'il faut être du coin pour connaître la décharge. Dombasle-sur-Meurthe est un petit village, une cité ouvrière. La plupart des gens travaillent à l'usine Solvay, près du canal. Le vendredi soir à minuit, c'est pas la fête du slip à Dombasle. Il y a quelques bars qui accueillent toute une faune locale, les flics interrogent les habitués. Rien. Et là, une voisine du frère livre un témoignage très intéressant.
Moi, je suis rentré chez moi vers 9h du soir. Et j'ai vu une voiture garée devant l'immeuble. C'était une GS, blanche. Je crois bien que sur la plaque d'immatriculation, il y avait le chiffre 88.
Très précieux témoignage. Les policiers se plongent dans le fichier des cartes grises.
Oh, dis donc, là, regarde. Il y a une seule personne à Dombasle qui a une GS blanche avec un 88 dans l'immatriculation. Le type s'appelle Jacques Maire.
Jacques Maire. Renseignement pris, c'est un habitué des bars de Dombasle. Les flics du coin le connaissent bien, hein. C'est un bringueur, un type porté sur la bouteille, qui devient violent quand il a picolé. Il habite la rue à côté de celle du frère de Nelly. Et pour parfaire le portrait, il a un petit casier. Les policiers vont le voir tout de suite. Eh ben, c'est une fausse piste.
Ah ben, j'étais à la maison, avec ma femme, toute la soirée. Ben, demandez-lui.
Et la femme confirme. Et les flics la croient. Dommage. D'autant qu'après, c'est la Bérésina. L'enquête s'enlise pendant des mois, des années, 7 années s'écoulent. Et en 1994, le juge referme le dossier d'instruction et il conclut à un non-lieu. Imaginez la famille. Michel, le compagnon qui a fini par adopter la fille aînée de Nelly dont il n'était pas le père. On lui dit, c'est fini. On ne retrouvera jamais celui qui a fait ça. Faut l'avaler, ça. Et l'expression non-lieu est terrible, comme si le meurtre horrible de Nelly n'avait jamais eu lieu. C'est une autre affaire qui va relancer l'enquête sur la mort de Nelly Aderer. Une affaire antérieure de 2 ans, enterrée elle aussi. Et qui, grâce à la ténacité de la famille, est en train, pile à ce moment-là, de refaire surface. Une disparition qui a eu lieu à Dombasle en juillet 1985, c'est-à-dire 1 an et demi avant le meurtre de Nelly. Une adolescente de 16 ans, nommée Sandrine Ferry. Le 20 juillet 1985, Sandrine passe la soirée dans un bar de Dombal, le Madison. Vers 1h30 du matin, elle décide de rentrer chez elle. Sur le chemin, elle rencontre un bon copain, Mohamed. Il fume une cigarette. Mohamed la raccompagne sur quelques centaines de mètres.
« Tu veux que je te raccompagne chez toi ?»«
Oh, t'inquiète, je vais rentrer toute seule. » À ce moment-là, il lui reste 3 kilomètres pour arriver chez elle. Elle doit longer le canal et l'usine Solvay en pleine nuit. Sandrine n'est jamais arrivée chez elle. Et au petit matin, on retrouve son sac à main sur les berges d'une rivière, derrière l'usine. La mère s'inquiète. Elle va voir les flics.
« Moi, je pense qu'il faut lancer une enquête. C'est un enlèvement.
Vous pensez pas plutôt que c'est une fugue, madame ? Écoutez, ce que je vous propose, c'est de l'inscrire dans le fichier de recherche dans l'intérêt des familles. Puis vous verrez qu'elle réapparaîtra, votre fille. » Une simple mesure administrative. Pas d'enquête. Le copain Mohamed, le dernier à l'avoir vue vivante, n'est même pas interrogé. La mère fait publier des avis de recherche dans la presse locale. La mère elle-même cherche des témoins. Les parents vont patrouiller la nuit dans les quartiers de prostitution de Metz.
Bonsoir. Vous n'avez pas vu une gamine de 16 ans qui serait arrivée récemment ?
Non.
Ok, merci.
Pendant des années, les parents n'ont aucune nouvelle de leur fille. La police ne mène aucune enquête. Et 9 ans plus tard, en 1994, pile au moment où le juge vient d'enterrer l'affaire Nelly Aderer, les parents de Sandrine Ferry prennent une avocate, maître Anne-Lise Bloch.
Nous, ce qu'on veut, maître, c'est qu'on ouvre une enquête. Rendez-vous compte, ça fait 9 ans. C'est pas trop tard pour ouvrir une enquête, maître?
Non, bien sûr que non.
Il faut porter plainte pour enlèvement et séquestration.
9 ans après, une enquête, ça va pas être facile. Et la clé de la suite, c'est une troisième affaire. Car l'avocate maître Anne-Lise Bloch est saisie au même moment par une autre famille à qui il est arrivé la même chose. Odile Busset, 20 ans. Elle aussi a disparu 2 ans avant Sandrine Ferry, dans le même coin, Dombasle-sur-Meurthe. C'était en mars 1983. Odile, qui avait un petit garçon, est venue le déposer chez sa mère avant de sortir en boîte de nuit. Elle n'est jamais revenue chercher son fils. Jamais. Sa mère est allée au commissariat pour signaler sa disparition et à elle aussi on a dit « c'est une fugue ». Une fugue ? Mais enfin, Odile n'aurait jamais abandonné son fils. Et là encore, les années passent dans l'indifférence générale. Même quand la mère vient livrer un témoignage très intéressant. Une copine d'Odile, Hakima, lui a dit que le soir de la disparition de sa fille, elle a vu une voiture rouge ou orange devant chez elle. Mieux que ça, elle a reconnu le conducteur. C'est un voisin. Il s'appelle Jackie. Jackie Mère. Jacques Mère, de son vrai nom. Et les policiers, à l'époque, ont mollement organisé une confrontation entre la copine Hakima et ce Jackie Mère. Et lui, il l'a traité de folle. Et on en est resté là. Onze ans plus tard, l'enquête sur la disparition d'Odile tient en 8 pages. 2 auditions, le strict minimum, du foutage de gueule. Mais maintenant que Maître Bloch a ses 2 dossiers sur son bureau, ça lui saute aux yeux. Ces 2 histoires se ressemblent. Odile et Sandrine sont 2 jeunes filles de milieu modeste qui habitent le même coin, qui ont disparu dans la même indifférence générale. Alors 12 ans après la disparition d'Odile et 10 ans après celle de Sandrine, Maître Bloch obtient enfin l'ouverture de 2 enquêtes. 2 enquêtes séparées. Dommage. Confiées à 2 juges d'instruction différents. Mais tant d'années après, qu'est-ce que vous voulez faire? Les policiers commencent par vérifier l'état civil des 2 disparus. Ils regardent les dossiers d'assurance maladie, les comptes bancaires. Rien n'a bougé depuis des années. Elles sont mortes.
Le juge ordonne alors des fouilles aux abords de l'usine Solvay. Il fait ratisser 6 hectares. Ça dure 2 jours. On ne trouve rien, bien sûr. Mais le juge en charge de l'enquête sur la disparition d'Odile Busset finit par se rendre compte que dans le maigre dossier de 8 pages, je vous rappelle, il y a une lettre anonyme qui date de 1989. Une lettre qui désigne un suspect et qui fait le rapprochement avec le meurtre de Nelly Adereur. Cette lettre est écrite au normographe. Vous savez, c'est une sorte de pochoir. Je vous la lis. Au sujet de l'affaire Nelly, carrière Saint-Nicolas, monsieur Jacquimère est coupable. Ce soir-là, il a été vu en sa compagnie. Et la fille Busset, pose-lui la question. Quand il est ivre, il parle beaucoup. Autrement dit, dès 1989, la police, si elle s'était intéressée à cette lettre anonyme, aurait pu faire le lien entre le meurtre de Nelly Adereur et la disparition d'Odile Busset. D'autant que le nom de Jacques Maire, apparaissait déjà dans l'affaire Adereur. Vous vous souvenez, la GS Blanche et sa femme qui avaient dit « Mais non, il n'a pas pu tuer Nelly puisqu'il était avec moi à la maison. » Mais il y a pire que ça. On s'aperçoit 12 ans plus tard qu'au moment de la disparition de sa fille, la mère d'Odile, elle aussi, a désigné Jacques Maire. Vous vous souvenez, la voiture rouge ou orange qui a été vue en bas chez elle le soir de sa disparition par une copine d'Odile, Akima. Elle est allée voir le conducteur. Elle l'a reconnu. Elle a désigné Jacques Maire, auquel elle a été confrontée. L'autre l'a traité de folle. Les policiers l'ont cru lui, et pas elle. Que de légèreté à l'époque, que de nullité. Les flics ont été nuls dans cette affaire. Nuls ! Il est temps de se rattraper. Le matin du 29 juin 1997, la police débarque enfin chez Jacques Maire. Et il est placé en garde à vue. Mais en garde à vue, Jacques Maire refuse de dire quoi que ce soit. Un mur. Et pourtant, le juge le met en examen pour enlèvement et séquestration. Et il l'envoie derrière les barreaux. 14 ans après la disparition d'Odile Busset. Et le juge interroge alors la copine Akima, le témoin clé, celle sur laquelle tient toute l'accusation contre Jacques Maire. Et là, c'est la douche froide. Monsieur le juge, vous savez, j'ai menti. J'ai pas vu Jacques ce soir-là. C'est quelque chose que je fais souvent. Je suis une menteuse. J'ai besoin de faire mon intéressante, quoi. C'est un problème que j'ai. Je l'ai pas vu. La tuile. Le juge doit relâcher Jacques Maire. La guigne. Parce que ce type a le profil. C'est un petit caïd de Dombal. Un gars qui boit comme un trou, qui se bat dans les bars. Un type qui a toujours un couteau sur lui. Et qui s'en est déjà servi, hein. Mais il n'y a pas eu de plainte. Parce que les gens avaient peur. On raconte même qu'un jour, il a tiré à coups de pistolet dans une boîte de nuit. Et avec ça, un homme à femme, marié mais infidèle. Tout le monde dit qu'il en avait appris Odile Busset, qu'il voulait coucher avec elle, qu'au moment où elle disparaît, ça fait 2 mois qu'il rêve d'elle, qu'il la relance. Mais bon, il n'y a plus de témoins contre lui. Donc, il est libre. C'est à ce moment-là que l'enquête sur le meurtre de Nelly Adereur rebondit. Une habitante de Dombal, Viviane, qui habite la même rue que Nelly Adereur, vient raconter que 10 ans plus tôt, elle a vu Jacques Maire attendre Nelly dans sa voiture, une GS blanche. Pourquoi est-ce que vous avez attendu 10 ans pour venir nous raconter ça, madame? Ben, c'est-à-dire que j'en ai parlé à mon mari à l'époque. Il m'a dit de fermer ma gueule.
C'est que Jacques Maire habite en face de chez nous, vous comprenez. Il voulait pas d'histoire avec lui.
Non. Comment voulez-vous qu'on comprenne?
Bref, la bonne nouvelle, c'est que ça nous fait un nouveau témoignage contre Jacques Maire. Et cette fois dans l'affaire Nelly Aderer. Le juge d'instruction fait donc à nouveau interpeller Jacques Maire. Et il le place en garde à vue.
Mais j'ai rien fait, monsieur le juge, enfin. On m'accuse, c'est n'importe quoi. Je l'ai déjà dit à l'époque. J'ai rien à voir avec ce meurtre.
N'empêche qu'une fois de plus, Jacques Maire est mis en examen pour le meurtre de Nelly Aderer et écroué. Une confrontation a lieu avec le témoin, Viviane. Elle ne se défile pas. Mais lui ne bouge pas. Il n'était pas en bas de chez Nelly Aderer le soir de son assassinat. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait saisi des vêtements, des chaussures, un couteau retrouvé sur la décharge. Le juge aimerait bien mettre la main dessus pour faire des prélèvements, essayer de retrouver des empreintes. Malheureusement, les scellés ont disparu. Rageant. Tant pis. 12 ans après la mort de Nelly, le juge ordonne des fouilles dans la décharge. Il se dit que peut-être les corps des deux autres, Sandrine et Odile, sont là quelque part. Un tractopelle creuse sur 6 mètres de profondeur.
Stop !
On vient de trouver des ossements humains, notamment un numérus. Malheureusement, ces ossements n'ont rien à voir avec nos deux disparus. On pense qu'ils viennent d'une fosse commune.
Tant pis, le juge s'entête. Il fait fouiller des bassins, des salines, des forêts. Ça coûte très cher, une fortune.
Ça ne donne rien. Et à un moment, faute de preuves, eh bien il doit se résoudre à relâcher Jacques Maire, qui reste mis en examen, mais qui est libre. Une reconstitution a lieu en bas de chez Nelly Aderer, fin février 2001, de nuit. On assoit Jacques Maire dans une voiture, le but est de vérifier s'il y a suffisamment de lumière pour que quelqu'un ait pu le reconnaître. Et c'est le cas, on le reconnaît. Ensuite, on interroge sa femme. Vous vous souvenez qu'à l'époque, elle avait juré qu'il était rentré chez lui à 22h30. Les années ont passé, elle a changé d'avis.
Oh ben non, il n'est pas rentré à 22h30. Il est rentré beaucoup plus tard. Je sais pas à quelle heure j'étais couché, mais en tout cas, à 1h30 du matin, il était dans le lit.
Là-dessus, un fonctionnaire de la cité judiciaire retrouve les scellés égarés, les vêtements de Nelly, ses bottines, le couteau retrouvé dans la décharge. Malheureusement, les experts ne trouvent aucun indice. Voilà. Le juge ne peut pas faire grand-chose de plus. Dans le meurtre de Nelly Aderer, il a un témoignage. Ça suffit à renvoyer Jacques Maire devant la cour d'assises. C'est un peu léger, hein, mais ça suffit. Et dans la disparition d'Odile Busset, il a aussi un témoignage. Là aussi, ça suffit pour renvoyer Jacques Maire devant les assises. En revanche, dans le dossier de la disparition de Sandrine Ferry, il n'a pas de biscuit, pas un. Il pense que c'est lui, hein, mais c'est tout. Et donc, la mort dans l'âme, il rend une décision de non-lieu. Jacques Maire ne sera jugé que pour le meurtre de Nelly et pour l'enlèvement d'Odile Busset. Le procès de Jacques Maire s'ouvre le 15 novembre 2004 devant la cour d'assises de Nancy. Il arrive libre, bien sûr. Et il n'a plus rien à voir avec le petit caïd de Dombasle des années 80. Hein. Il a l'air d'un brave quinquagénaire. Dans ce procès, vous avez compris que tout va se jouer sur les témoins. Et les témoins, d'entrée, sont mous du genou.
Bah oui, Jacques, c'était un bagarreur. Mais il n'était pas bien méchant.
Les gens ont encore peur de lui. On interroge Jacques Maire sur Odile Busset, puisque plusieurs témoins ont dit qu'à l'époque, il l'a rêvé.
Bah ouais, c'est vrai. Elle me plaisait bien, Odile. Mais comme beaucoup de femmes me plaisaient, hein. Et puis moi aussi... Je lui plaisais bien, Odile.
On fait ensuite venir à la barre la fameuse Akima qui l'a accusée avant de se rétracter. La scène est totalement délirante. Elle commence par expliquer qu'elle est voyante, qu'en général, il ne faut pas la croire. et qu'elle a désigné Jacquemert par hasard.
J'ai dit que la voiture que j'ai vue en bas de chez Odile, elle était orange. Bah, c'est uniquement parce que j'aime bien les oranges.
Et une fois sa déposition terminée, Hakima se tourne vers l'accusé et elle lui lance.
Au revoir, Jackie. À bientôt, hein.
Dans le dossier Nelly Adhéreur, on fait aussi venir le témoin, Viviane, qui arrive encadrée par deux gendarmes, car elle se sent menacée. Elle confirme qu'elle a vu Jacquemert au volant de sa GS le soir du crime, en bas de chez Nelly. Mais voilà que dans la foulée, des proches viennent dire que c'est une menteuse invétérée. Je vous l'ai dit, dans ce dossier, tout tient sur les témoignages. Et si les témoignages sont branlants? Eh ben, c'est mal barré. On arrive au bout de ce procès. Et au dernier moment, l'avocate de Jacquemert, maître Liliane Glock, tente un gros coup. Elle fait venir à la barre le tueur en série Francis Holm. Ça ne lui a pas été difficile, elle est aussi l'avocate de Francis Holm. L'idée, bien entendu, de lui faire porter le chapeau, en tout cas de nourrir le doute, et si c'était Holm? Mais en réalité, c'est un flop total. Holm n'a rien d'intéressant à dire et il repart sans avoir fait avancer les débats. Dans son réquisitoire, l'avocat général reconnaît que les charges contre Jacquemert sont ténues.
Oui, il n'y a pas de preuves irréfutables dans ces deux dossiers. Les témoignages sont cohérents, ils sont concordants, mais il n'y a pas la preuve. Je vous demande donc de condamner Jacquemert dans les deux dossiers, en tenant compte de l'ancienneté des crimes, à une peine minimum de 20 années de réclusion criminelle.
20 ans pour le dépeçage de Nelly Adhéreur? Est-ce que ça n'est pas reconnaître, déjà, que le dossier est totalement vide? Et il est vide. Que voulez-vous que fassent les jurés? Ils ne sont sûrs de rien. Et donc Jacquemert est acquitté pour le meurtre de Nelly Adhéreur. En revanche, il est condamné à 15 ans pour la disparition d'Odile Busset. Il est emmené le soir même à la prison de Nancy. Mais bien sûr, il fait appel. Et 4 mois plus tard, dans l'attente de ce procès en appel, il est remis en liberté. Jacquemert est rejugé 2 ans plus tard, en 2006, devant la cour d'assises d'appel d'Épinal. Dans les deux dossiers, Busset et Adhéreur. Le procès commence par un fiasco. L'un des policiers qui a mené l'enquête vient témoigner à la barre. On ne comprend rien, pas un mot, à ce qu'il raconte. L'avocate de Maire fait revenir Francis Holm. Et ça ne sert toujours à rien. L'avocat général réclame à nouveau 20 ans de prison contre Jacquemert. Et cette fois, le jury le suit à la lettre. Jacquemert est reconnu coupable des deux crimes et il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. On le menotte et on l'embarque. Mais l'avocate de Jacquemert se pourvoit en cassation. Et figurez-vous qu'on s'aperçoit que la greffière du procès en appel a oublié de signer 32 pages. C'est une erreur idiote. La condamnation de Jacquemert est cassée pour vice de forme. Et le voilà, à nouveau en liberté. Mais quelle plaie, cette affaire. Quelle plaie.
Ses toutes premières heures de liberté, Jacquemert les a passées en famille. Condamné à 20 ans de réclusion, ce maçon de 54 ans affirme qu'il est innocent.
Les premières heures de liberté, ma femme l'est venue me chercher à la maison d'arrêt. Après, j'étais à la maison, puis j'étais voir mes petits-enfants, enfin la famille, quoi. Bon, j'ai été chercher mon journal le matin, j'ai été boire mon petit café. Personne ne parle de ça, quoi. J'espère bien avoir un acquittement, je suis innocent.
Le 6 octobre 2008, troisième procès, à Metz. On est plus de 20 ans après les faits. Les témoins branlants sont devenus très branlants. Et le verdict tombe. Jacquemert est acquitté. Des deux crimes.
son avocate Liliane Glock jubile.
J'ai envie de dire en toute simplicité ouf, parce que si vous voulez, cette affaire pour lui, c'est quand même une odyssée qui a gâché des années de sa vie. Hein. Et quelque part, c'est un calvaire qui s'achève. Quoi. Si vous voulez, les faits sont quand même de 1983 à 1987. Et ce sont des dossiers qui sont vides. Vraiment qui sont vides. Si vous voulez, moi j'en suis à dire qu'il s'agit de dossiers qui n'auraient même pas dû être renvoyés devant la cour d'assises.
En 2010, Jacquemert obtient 200 000 euros d'indemnisation pour les deux années qu'il a passées en prison pour rien. Et est-ce que c'est fini? Eh bien non, pas tout à fait. En 2014, les avocats de la famille de Nelly Haderer obtiennent le réexamen des scellés. Et oui, entre-temps, la technique de l'ADN s'est perfectionnée. Et la côte de théâtre, sur la poche intérieure d'un jean de Nelly Haderer, on retrouve une trace de sang qui appartient à Jacquemert. C'est lui! Ça y est, on en a la preuve! C'est lui qui a tué Nelly, et sans doute aussi Odile, et probablement Sandrine. Sauf qu'il a été acquitté et qu'en droit c'est définitif. On ne peut pas le rejuger. Et l'affaire est définitivement pliée quand le 20 janvier 2018, Jacquemert meurt d'un infarctus.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.